Là,
Non. Il n'y avait pas de missel jusqu'au XIXe siècle et les gens ne connaissaient pas le détail des prières du prêtre. Moi, pour moi, il ne faut pas suivre avec un missel, et ça c'est mon opinion. Et on doit se recueillir et prier à la messe. Ensuite, les prières du prêtre sont très belles et vous pouvez suivre la messe en lisant les prières du prêtre. Mais sachez que jusqu'au XIXe siècle, 95% des fidèles ne connaissaient pas, ne savaient pas lire, ne connaissaient pas les prières, et ils étaient meilleurs que nous. Donc, il y a peut-être un petit problème. Parce qu'ils se recueillaient, ils priaient, ils faisaient oraison, ils priaient, ils se laissaient aller à la messe. Vous voyez, quand vous étiez, comment dire, illettré, vous aviez, même si vous aviez reçu un missel en parchemin, les grandes familles avaient des missels, ce qu'on appelait les heures, n'est-ce pas? Eh bien, oui, eh bien, ils se recueillaient. Vous voyez, le prêtre montait dans le Saint des Saints, toutes les prières, toutes les gestes du prêtre, ils étaient là, ils se recueillaient, ils fermaient les yeux. Ah oui, mais il y en avait même qui disaient le chapelet. Eh bien, qu'ils disent le chapelet. Ah oui, mais ce n'était pas une bonne assistance à la messe. Mais toutes ne disaient pas le chapelet pendant la messe. C'est pas vrai.
Aussi, parce que justement, comme ils n'avaient pas de livres et de choses comme ça, il y a toutes les traditions orales, donc ils avaient une très très bonne mémoire.
Oui.
Donc le prêtre faisait aussi le catéchisme,
Et
ils
tout
ont
ça. Et le prêtre
ils
disait, qu'à la consécration, voilà ce qu'il disait. Les paroles de consécration n'étaient pas cachées. Elles étaient en silence à la messe, mais elles étaient expliquées. Comme ici. Il y a un grand avantage à assister souvent à la messe, même en semaine, parce qu'en véritable enfant de Dieu offre souvent sa, parce qu'un véritable enfant de Dieu offre souvent sa vie, ses souffrances et ses actions en union avec le sacrifice du Christ. Mais attention, hein, la messe en soi, c'est celle de la veillée du samedi soir jusqu'au dimanche matin. Les premiers chrétiens n'avaient pas la messe en semaine. Pendant au moins, à mon avis, 200 ans, il n'y a pas une messe en semaine. 300 ans peut-être. Je vais peut-être me faire incendier par certains historiens. Mais la messe, c'était le dimanche. Et par piété, on a célébré la messe tous les jours. Figurez-vous que jusque dans les années 1500, les prêtres n'avaient pas la coutume de célébrer la messe tous les jours. Elle s'est instaurée après les années 1500. Et là, de nos jours. Par contre, on aurait du mal à ne pas célébrer la messe tous les jours. On se dirait qu'on manque de piété. Mais si vous voulez, ça veut dire que cette coutume est entrée dans une volonté divine. Je sais qu'à Châteauroux, dans les années folles, 70, les prêtres avaient décidé de plus célébrer la messe en semaine. Donc ils devaient acheter des gilets pare-balles. Parce que vous aviez les vieilles dames, ou les dames, ou parfois c'est des messieurs, qui allaient à la messe en semaine. De ne pas avoir leur messe en semaine, que le prêtre regarde la télé. Non, non. Pour survivre, ils ont continué à célébrer la messe en semaine. Pour ma vie, comprenant que rien ne saurait être plus agréable à Dieu que le sacrifice de la messe, je ne manquerai jamais d'y assister quand l'Église le demande et je m'y unirai de toute mon âme. Prière, faites au Jésus que votre sacrifice soit aussi le mien et pour cela unissez ma volonté à la vôtre. Chaque fois que vous mangerez de ce pain, vous annoncerez la mort du Seigneur, dit saint Paul, 1 aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Et pour terminer. Ah non, il y a encore deux petites leçons, et ça sera fini. Leçon 35, page 178. La communion, la sainte communion, est l'union la plus étroite possible entre nous et notre Seigneur. Quand vous communiez, vous recevez si bien notre Seigneur que vous êtes perdu en lui et lui en vous. Et vous pouvez dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Car, ayant mangé le corps de notre Seigneur sous l'espèce du pain, Jésus devient vraiment la nourriture de votre âme. C'est bien ce que disait le Maître lui-même en parlant de l'Eucharistie, quand, après le miracle de la multiplication des pains, il en faisait la promesse. Je suis le pain de vie, voici le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour le salut du monde. Là-dessus, des Juifs discutaient entre eux, disant, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Vous savez, les apôtres ont dit, « Mais qu'est-ce que c'est dur ce que vous dites ?» Et les disciples sont partis, mais c'est de l'anthropophagie. Oh non, c'est de la haute spiritualité, je vous assure. Retenez bien ceci, la communion est la nourriture nécessaire de votre âme. Communier, c'est recevoir Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Jésus-Christ a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Saint Jean, chapitre 6, verset 56. Nous sommes obligés de communier chaque année au temps de Pâques et quand nous sommes dangereusement malades. C'est ce qu'on appelle le viatique. On doit communier une fois par an, deux semaines, trois, quatre semaines avant Pâques, deux semaines, trois, quatre semaines après Pâques. Donc on doit se mettre en ordre dans son âme pour communier une fois par an. Et si on a un problème d'un péché plus... Si on vit en concubinage et qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre en concubinage, eh ben, il faut en discuter avec un prêtre et puis il vous accompagnera, mais vous ne pourrez pas communier avant d'avoir vraiment voulu être dans le véritable amour pour votre prochain. Si vous êtes un homme, mais que vous avez décidé d'aller voir une maîtresse ou une prostituée toutes les semaines... Mais vous pouvez vous en confesser toutes les semaines si vous avez le ferme désir de ne pas y aller la semaine d'après. Ah oui, mais c'est trop facile. C'est ce qu'on appelle les habitudinaires. Pour les aider à se sanctifier, on peut leur donner même l'absolution toutes les semaines. Enfin, s'il nous dit en confession, ben, je m'en fous et j'irai voir la prostituée, ben, alors on ne lui donne pas l'absolution. Il dit, vous avez un problème de sensualité. Il va falloir quand même désirer lutter contre. Oui, mais ça fait 10 ans que je me confesse et que 10 ans que je trompe ma femme. Et mais vous désirez arrêter ça? Oui, j'en souffre. Eh bien, on vous donne l'absolution. Ah bon? Ben non, c'est drôlement facile d'avoir l'absolution. Ben oui. C'est pour ça que pour les divorcés remariés, on leur demande, si vous avez un mariage, vous ne pouvez pas vivre avec une autre personne. Mais c'est dur. Ben, vivez comme frères et sœurs. Mais c'est dur. Alors vous vivez comme frères et sœurs, vous avez 2 lits dans l'appartement, vous avez 1 enfant commun. Et si vous n'avez pas d'enfant commun, ah, je ne peux pas la quitter, c'est trop dur. Mais oui, mais vous êtes tenu à respecter la fidélité à votre épouse, ou vous à votre époux. Hein, la discussion d'Amoris et Titia, c'est sans fin. Eh bien, oui, mais on est dans le même appartement, eh bien, que ça ne se sache pas parce qu'on va penser que vous couchez ensemble. C'est l'absence de scandale. C'est de l'hypocrisie. Ben, en ville, ça ne se sait pas. En effet, dans un village, des divorcés remariés ne pourraient même pas communier, même s'ils vivent comme frères et sœurs. Parce qu'on considère qu'ils dorment ensemble. Dans un village. Oui, mais vous êtes dur, puritain, vous jetez des pierres aux pêcheurs, c'est foutu, vos églises vont se vider. Bon, elles sont déjà vides. Autant laisser la barre là où elle est. Oui, mais personne ne peut la sauter. Ben, avec la grâce de Dieu. Mais non, personne. Bon, ben, vous ne croyez plus en la grâce. Et vous ne croyez pas que pendant des siècles, on a permis justement aux femmes de ne plus être répudiées? Et que l'indissolubilité du mariage est plus pour la femme que pour l'homme. Une fois par an, on doit se mettre en ordre. Vous aviez les hommes qui allaient plus ou moins à la messe, qui allaient au bistrot, tout ça, même dans des villes, dans des quartiers populaires, mais qui se disaient quand même, allez, je vais aller me confesser, je vais aller voir le curé pour Pâques. Ah, mais vous n'allez pas à la messe et tout. Ah oui, mais je vais essayer d'y aller. Et ils avaient l'absolution et ils communiaient pour Pâques. La communion donnée aux malades en danger de mort s'appelle viatique, c'est-à-dire la provision de route pour le grand voyage, de la vie terrestre à la vie éternelle. Quand vous rencontrez un prêtre qui porte la communion à un malade, ça c'est dans les villages, vous voyez, il était en surplis avec un petit enfant de cœur avec une clochette et une petite lumière. Saluez respectueusement et adorez notre Seigneur qui passe. Est-il bon de communier souvent? Oui, il est bon de communier souvent, et même tous les jours, pourvu qu'on le fasse avec les dispositions nécessaires.
Mon père, j'ai une question.
Oui.
Quand on va donner la communion, les legs vont donner la communion aux malades.
Oui.
C'est possible?
Eh bien, vu la misère actuelle, même des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre donnent la communion à des laïcs pour qu'ils l'apportent aux malades, parce qu'ils ne peuvent pas. Au point de vue du temps, ils ne peuvent pas. Il mourrait d'épuisement. Oui, mais il faut une nécessité. Vous voyez, quand vous avez à la messe, je ne dirai pas où, vous avez 20 prêtres, et par coutume, on prend 4 personnes, 4 laïcs pour donner la communion, et il y a 6 prêtres qui donnent la communion, mais 4 laïcs qui vont quand même donner la communion, c'est quand même invraisemblable.
Je vois à Saint-Laurent, il y a des laïcs qui vont porter la communion aux malades.
Oui, mais ça, si vous voulez, c'est parce que les prêtres peuvent plus se multiplier de nos jours. On peut le tolérer. Mais c'est difficile, hein, c'est vrai. Mais vous savez, il y avait 10 vicaires par paroisse à Paris, hein, il y a encore 50 ans. Eh oui. Les enfants, alors... Communier tous les jours, c'est vraiment pas nécessaire non plus, hein. Il faut faire très attention. Il est bon de communier tous les jours. Mais à force de communier tous les jours, on a fini par avoir justement un manque de respect de l'Eucharistie, hein, pour certaines personnes. Et vous aviez dans les lycées, collèges, 3 messes par semaine, et à la fin, ils n'en pouvaient plus, les enfants. Ils n'avaient pas la piété de ceux qui allaient à la messe tous les jours. Et donc ça a fait, il y a parfois eu plus d'inconvénients que d'avantages. Voilà. Alors que de droit divin, hein, actuellement, c'est assister à la messe tous les dimanches pour sanctifier le jour du Seigneur et communier une fois par an. Et donc la messe tous les jours, c'est une piété qui est actuellement très importante parce qu'elle compense tous ceux qui ne vont pas à la messe et toutes les impiétés qu'il y a de nos jours. Mais à des enfants, il faut faire attention de ne pas forcer quelqu'un à aller à la messe en semaine. Ça, c'est déjà qu'un jeune aille à la messe le dimanche. Mais si vous lui faites l'obligation d'aller à la messe en semaine, il peut. D'ailleurs, c'est faux.
Ça veut dire que c'est pas obligatoire d'aller tous les jours à la messe.
Bah oui, c'est bien ce que je viens de vous dire. Mais c'est très bon pour le salut du monde actuellement. Donc si quelqu'un a la piété pour le faire, qu'il le fasse. Les enfants peuvent communier aussi souvent que les grandes personnes, même tous les jours s'ils le font pour plaire à Dieu et devenir meilleurs. La communion produit en nous 4 effets. Elle nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ, elle augmente la vie de la grâce, elle affaiblit les mauvais penchants, elle est un gage de la vie éternelle. Et là ils ont pas mis, elle remet les péchés véniels. Pour terminer, oui.
Dans quel sens est-ce un gage de la vie éternelle?
Un gage, c'est une promesse de la vie éternelle. C'est déjà la vie éternelle commencée, puisque la Sainte Trinité habite en nous et renforce sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire renforcer une présence divine? Eh bien, vous lui demanderez, après la mort. Hein. Ou alors, si vous avez une apparition, vous lui demandez une leçon de théologie. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire augmenter l'état de grâce? C'est augmenter l'infini, c'est comment ça se passe? Eh oui. Et pour terminer, leçon 36, page 182. Manière de bien communier. Puisque la communion est une nourriture divine, on peut la comparer à un festin. Or, quand on est invité à un grand repas, chez des parents ou des amis, vous mettez vos amis de fête, vous cherchez à vous présenter d'une manière soignée. Quand vous communiez, veillez à prendre les dispositions nécessaires. La première de toutes, c'est d'être sans péché mortel. Votre âme doit être en état de grâce. Eh oui. Alors, si vous avez des jeunes qui arrivent en jean basket le dimanche à la messe, ben déjà ils sont à la messe. Vu que ce sont les derniers des Mohicans, on ne va pas leur jeter la pierre. Enfin, ça serait mieux qu'ils soient bien habillés pour la messe, c'est sûr. Par respect. Pas seulement par respect social et mondanité, mais aussi parce que c'est, ils vont voir Dieu quand même. Lisez cette parabole que l'on peut appliquer à la communion. Un roi fit un jour les noces de son fils, et ses serviteurs rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent sur les chemins, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et ayant aperçu là un homme qui n'était pas revêtu de la robe de noces, il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le costume de noces ?» Et comme cet homme était resté muet, il ordonna à ses serviteurs de le jeter pieds et mains liés dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La robe de noces, vous l'avez compris, c'est l'état de grâce, et il faut aller au banquet divin sans péché mortel. C'est ce que saint Paul rappelait aux premiers chrétiens quand il leur disait « Celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. » Enfin, vous n'êtes pas obligé de communier à toutes les messes. Comme on a eu la coutume de communier à toutes les messes, dès que quelqu'un ne communie pas à une messe, il dit « Ah, il est en péché mortel, ah, il est en état de péché mortel. » Vous pouvez avoir vos raisons pour ne pas communier à une messe. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Vous recevrez toujours notre Seigneur comme Marie, la sœur de Lazare, qui répandait sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix. 300 jours de salaire, hein, 300 deniers, c'est beaucoup, hein, c'est un bon parfum, hein, c'est du nard. Oui. Le parfum sera l'amour que vous aurez pour Jésus. Que faut-il pour bien communier ? Pour bien communier, il faut être en état de grâce, avoir une intention droite. Avoir une intention droite, c'est communier pour obéir à notre Seigneur, s'unir à lui, et par là devenir meilleur. Jamais nous ne devons communier uniquement par routine ou par vanité. L'état de grâce. Ben, si tout ce que vous vous reprochez dans votre conscience, vous l'avez dit, Sainte Jeanne d'Arc, on lui dit, êtes-vous en état de grâce? Et l'Esprit Saint, parlant par la bouche de Sainte Jeanne d'Arc, si j'y suis, que Dieu m'y maintienne, que j'y reste, si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Elle ne dit pas, je sais si je suis en état de grâce ou pas. Saint Paul aussi, il dit, qui me juge? C'est Dieu qui me juge. Eh bien, le prêtre représente Dieu en confessionnal. Hein? Qui suis-je pour juger? Eh bien, un prêtre. Voilà. C'est bête à dire, hein? Mais si, c'est important. Alors, c'est pour ça que le prêtre est assis quand il vous confesse. Parce qu'il vous juge. Il siège. Alors, avec bonté, miséricorde, douceur, mais... Celui qui communierait en état de péché mortel commettrait un sacrilège parce qu'il profanerait le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, par peur du regard des autres. Vous avez un gars de 16 ans qui a regardé des images pornographiques la veille et qui est là le dimanche et tout le monde communie... Il y a ses copains de classe qui... Quoi, t'as mangé un sandwich juste avant la messe? Hein? C'est ton jeûne eucharistique qui te pose problème? Voilà. Et il va communier, et puis après, il n'ose pas le dire au prêtre, et machin, et tout ça. Ça, c'est les scrupules de jeunes gens. Enfin, de nos jours, ça peut aussi... les adultes adolescents, c'est jusqu'à 35 ans quand maintenant on regarde des films porno sur Internet. Jusqu'à 40, jusqu'à 45 ans, enfin maintenant, c'est une explosion. Et bien normalement, vous devez vous en confesser humblement avant de communier. Ah ben dis donc, ça va être compliqué. Ben oui, ben, luttez, je sais pas, foutez votre ordinateur par la fenêtre, mettez des filtres pour enfants, enfin je sais pas, enfin, prenez un seau de glace, enfin je sais pas. Mais à un moment donné, si vous voulez, Les bons vieux curés d'autrefois, ils embêtaient pas les hommes s'ils avaient des problèmes d'hommes, n'est-ce pas? Eh bien, on communiait à Pâques humblement, voilà. Si le bonhomme n'allait pas se confesser toutes les semaines parce que ceci, parce que cela, mais il se confessait moins souvent, et mais ils avaient le sens de la communion. Et, mais comme de nos jours on communie à tire-larigot, donc... Mais à la limite, vous avez des gens qui sont dans l'ignorance et qui communient pieusement, bien qu'ils fassent n'importe quoi. Vous voyez, vous avez une, comme je vous avais raconté, hein, vous avez une fille qui demande le baptême à 26 ans, ça s'engage, tout, et puis on s'aperçoit qu'elle vit en concubinage. On lui dit, bah, y a un petit problème, il faudrait vous marier. Ah ben non, 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 c'est mon copain, je vis avec lui, c'est mon ami, on s'aime, mais pour l'instant, on ne se marie pas. Oui, mais enfin... ah bah oui, mais enfin le baptême et le mariage, c'est pas la même chose. Ben, c'est lié. Au point de vue charité, voilà, on ne couche pas avec quelqu'un qu'on, avec qui on n'a pas fait de promesse. Ah bon? Oh mais vous êtes dur, vous êtes puritain, vous pensez qu'à ça, vous êtes des obsédés. Ben, enfin, en matière d'obsession, vous, en tout cas, vous vivez avec lui, hein. Et vous n'arrivez pas à lui tenir la dragée haute pour vous marier. Hein? Vous craquez assez souvent en, point, en, matière de, en cette matière. Voilà. Donc, eh bien, figurez-vous qu'elle a été vexée parce qu'on ne la baptisait pas parce qu'elle voulait rester en concubinage. Et elle est allée dans la paroisse, pip, et, où on l'a baptisée sans problème, toute concubine qu'elle était. Ce qui est un baptême sacrilège. Alors lui, elle, si elle n'a pas encore tout à fait compris que l'amour humain fait aussi partie de la charité, si vous voulez, elle a le sacrement de baptême, elle voulait le recevoir, mais en ce qui concerne sa véritable amitié et sa véritable charité, ce sera à voir au cas par cas avec Jésus, dans sa conscience. Hein. Que faut-il encore pour communier? Pour communier, il faut être à jeun. C'est-à-dire, une heure avant de communier, n'avoir ni mangé, ni bu de boisson alcoolisée. On peut prendre n'importe quand de l'eau naturelle ou un médicament nécessaire à la santé, même un sirop sucré. Youpi. Je suis malade, je peux prendre du sirop. L'Église demande d'être à jeun pour communier par respect pour le corps du Christ et en esprit de pénitence aussi. L'Esprit a adouci la loi du jeûne eucharistique pour rendre possible aux fidèles la communion fréquente. Puisque sinon, on ne pouvait pas communier le soir, on pouvait, ou alors il fallait être à jeun jusqu'au soir, le prêtre devait être à jeun jusqu'au soir, enfin c'était des performances. On ne devait pas boire d'eau, on devait être à jeun depuis minuit. Et avant c'était 3 heures, maintenant c'est réduit à 1 heure. Vous n'avez pas entendu. Un médicament nécessaire à la santé. Si au point de vue santé, vous avez besoin de manger... Sinon, vous tombez dans les pommes, et bien vous pouvez manger. Si vous avez besoin de prendre un sucre, même pendant la messe, parce que vous allez tomber dans les pommes, vous prenez votre sucre. Et vous communiez, parce que c'est par, manque de, par nécessité que vous avez mangé. Et non pas par gourmandise. Vous dites, tiens, j'ai envie d'un sucre. C'est l'offertoire. La consécration est dans 15 minutes. Ça ne va pas le faire. Mais ce petit sucre, c'est du sucre de canne. Avant la communion, je dois parler à notre Seigneur en faisant des actes de foi, de contrition, d'amour et de désir. Après la communion, je dois adorer notre Seigneur, le remercier, lui demander ses grâces et lui promettre de vivre plus chrétiennement. Pour ma vie, page 185. Je ne m'approcherai de la communion que quand je serai sûr de n'avoir aucun péché grave sur la conscience. Quand j'aurai des péchés véniels, je me souviendrai que l'un des effets de la communion est de les effacer. Et je m'approcherai de ce sacrement d'amour en demandant à Jésus de me les pardonner. C'est beau ça. Comme quoi, vous pouvez regarder des sites de réinformation jusqu'à minuit, 1h du matin, sur Internet. C'est des péchés véniels. Ouais, mais si vous arrivez jusqu'à 2h du matin, que vous êtes irascible, que vous êtes déphasé, que vous faites un burn-out, n'est-ce pas? Eh bien, vous pourrez vous dire que finalement, c'était grave de vous coucher si tard à savoir ce que personne d'autre ne peut savoir sur le site machin bidule et sur le machin chouette. Ouais. Faites attention. Se coucher tard, c'est un péché véniel contre sa santé. Seigneur, je ne suis pas digne que vous veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. C'est la prière du centurion. Que chacun s'éprouve soi-même, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation. Première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29. Alors ça fait peur aux jeunes. Et aux jeunes scrupuleux de 14 ans, il dit « Je vais être damné, je vais être damné, j'ai fait une communion sacrilège, je vais être damné, je vais être damné, je vais être damné. » Et vous avez le prêtre janséniste, « Oui, tu seras damné, si tu meurs dans une heure, tu iras tout droit en enfer. » Voilà. Eh oui, mais ça a fait des ennemis de l'Église, ça. Il faut lui dire, t'as fait une faute, t'as fait une faute de faiblesse, tout ça, fais attention, sois plus franc avec notre Seigneur. Et confesse-toi avant de communier. Voilà, mais c'était pas dramatique quand c'était des bons vieux curés qui le disaient. Alors, il y avait suffisamment de bons vieux curés qui le disaient gentiment et avec bonté. Donc la caricature de nos jours dit « Oui, ben, tous les prêtres étaient des jansénistes, tous les prêtres humiliaient leurs pénitents et ils leur jetaient des pierres. » Franchement, franchement. Liturgie. Voici ce que dit le prêtre quand il donne la communion. « Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. » Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dans la réforme, on a simplifié, c'est Corpus Christi, en latin, ou le corps du Christ. C'était un peu plus long. On s'est dit, oui, mais c'est trop long, on n'a pas le temps de le dire en entier, ou on le dit trop vite. Voilà. Moi, je dis la prière intégralement, mais relativement vite, c'est vrai, mais j'insiste sur le Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Custodiat animam tuam in vitam aeternam. C'est vrai. Moi, je connais des prêtres, tradis, qui disent ça sur quatre personnes. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, Custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Voilà. Ben oui, mais c'est pas bien. C'est un sacrement. Et on dit la formule du sacrement. Alors, la formule du sacrement n'est pas nécessaire. Communier, c'est recevoir l'hostie. Le prêtre peut ne rien dire. Il n'y a pas de parole. Les paroles, c'est les paroles de la consécration. En fait. Et pour le viatique, je l'ai donné quelques fois, le viatique. Je vous assure d'assister à un mourant, c'est toujours impressionnant. Recevez, mon frère ou ma sœur, le viatique du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous garde des embûches de l'ennemi et vous conduise à la vie éternelle. Parce que quand on est en train de mourir, vous avez tous vos péchés qui remontent à la surface, même si vous les avez confessés pour certains. Alors si en plus vous êtes scrupuleux par nature, alors là c'est la foire, et vous êtes là, je vais mourir. Eh bien le viatique c'est que le démon ne vous rappelle pas et ne vous remémore pas vos péchés. Pour que vous soyez en paix à ce moment-là. Parce que c'est une ordure finie. Hein. Donc il est là et il suscite votre mémoire pour dire, t'as vu, voilà ce que t'as fait pendant ta vie. Hein, voilà. Et tu vas mourir comme ça. Donc tu vas... Hein. C'est impressionnant. Hein. Et le démon existe. Faut pas le voir partout, mais il existe quand même. Et voilà. Et voilà. Alors, il y a de très très belles prières hein, sur la communion, mais moi, mon catéchisme n'est pas très pieux. Il est un peu drôlatique, donc j'arrive pas à vous... C'est la fatigue et le tempérament, voilà. Et donc, reste quand même que, en effet, nous recevons Dieu lui-même, qui nous nourrit, qui nous transforme, qui nous aide. Alors vous allez me dire, mais alors les personnes qui meurent dans l'ignorance invincible, qui n'ont jamais communié de leur vie, ils n'ont pas la vie éternelle? Eh bien, ils ont communié en esprit, comme le baptême en esprit. Ils ont voulu recevoir Dieu et ils en ont reçu toute la grâce. Et certains avaient un tel désir d'union à Dieu que je vous assurais qu'ils avaient la même grâce que la communion catholique. Mais si vous voulez, pour être d'une fausse religion et en état de grâce par ignorance invincible, c'est une grâce particulière et c'est aussi une très grande constante particulière. C'est beau, hein. Dans la vie éternelle, quand on va trouver des Aztèques, des Aborigènes, et même des Gaulois, des Celtes, des Japonais, qui n'ont jamais été évangélisés de leur vie, seront morts en état de grâce, ça sera très beau de connaître leur vie, hein. Pas forcément d'ailleurs toute une vie de sainteté, mais une mort humble. Et vous avez des personnes qui n'ont pas eu des vies extraordinaires, mais qui sont humbles, et qui meurent humblement, et le bon Dieu les rejette pas. Mais vous voyez, il ne les rejette pas, mais parce que l'âme veut Dieu, veut voir Dieu, veut connaître le Créateur, l'Invisible, le Tout-Puissant. Mais nous avons le devoir de dire que le Tout-Puissant s'est fait homme, et que Jésus est le Tout-Puissant, et que la bonté même s'est fait homme. On n'a pas le droit de laisser les gens dans leur fausse religion, même s'ils sont de bonne foi, et qu'ils sont peut-être même en état de grâce. Oui, mais vous allez les déranger dans leur tranquillité de leur fausse religion. Mais quand même, la vraie religion ne peut pas perturber quelqu'un à ce point-là. Et c'est pas possible, c'est pas sérieux. Et voilà. Et vous aviez un musulman qui justement disait mais si ce que vous dites est vrai, mais vous vous rendez compte, pour nous qui nous mettons la tête au sol pour prier Dieu, mais qu'est-ce qu'on ferait pour communier, nous, si on croyait comme vous en la présence de Dieu dans l'hostie? Mais le musulman disait mais c'est pas possible, comment vous pouvez communier debout? Alors il dit, dans les premiers siècles de l'Église, on communiait debout parce que c'était le repas pascal, mais ils avaient la foi. Vous assurez que ceux qui allaient se faire bouffer par les bêtes quelques jours plus tard, ils communiaient pieusement, très 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 pieusement. Saint Tarcisius était un jeune homme qui n'était pas prêtre, qui portait la communion aux prisonniers, et qui a gardé la pyxide, la petite boîte où étaient les hosties sur son cœur, et s'est fait tuer. Et quand un prêtre est venu et a pris la petite pyxide, la custode où étaient les hosties, les mains se sont relâchées alors qu'il était mort. Les mains étaient crispées, donc il y avait quelque chose de miraculeux dans cette crispation, impossible à défaire. Hein, ceux qui l'ont dit « Ah, t'es un chrétien » et qui l'ont massacré à coups de pied, à coups de pierre ou autre, eh bien n'ont pas pu prendre les saintes hosties qui étaient la toge, n'est-ce pas, enfin dans le vêtement de Saint Tarcisius, saint de l'Eucharistie. Et il portait aux prisonniers. Donc ceux qui allaient mourir, qui étaient dans les prisons des jeux du cirque, on leur donnait la communion. Comme pendant les persécutions communistes ou autres, on donnait la communion, ou dans les camps nazis. Vous savez, un des plus grands cimetières de prêtres, c'est un camp de prisonniers allemands, hein, et c'était des prêtres polonais. Enfin, si, vous voyez, c'est la souffrance de toutes ces personnes, et les prêtres qui célébraient la messe avec un morceau de pain et un dé de vin, hein, en prison, et en civil, mais là pour une bonne raison. Mais si vous voulez, c'est ces prêtres qui sont morts avec la Sainte Eucharistie sur les pontons de Rochefort, il y en avait qui avaient encore des hosties et qui donnaient par toute petite parcelle. Moi, un mourant, il faut pas, ça se fait pas vraiment. Enfin, je l'ai fait par sentimentalisme éthologique, mais c'était un Portugais de 50 ans qui mourait d'un cancer. Une force de la nature. Et l'infirmière avait appelé, elle dit, il a parlé de la Vierge Marie, tout ça. Là, il a perdu connaissance, il est dans le coma, mais venez. J'arrive, il est aux soins intensifs comme ça, à 41 degrés de fièvre, les yeux révulsés. Je lui donne l'onction. Et là, je prends une toute petite parcelle. Je savais pas s'il était conscient ou pas. Je prends une toute petite parcelle et je lui dis à l'oreille que je lui donne la Sainte Communion. Je lui dis. Et lui, il était en souffrance. Je lui mets une parcelle de 1 mm sur 1 mm dans sa bouche pour qu'elle fonde, pour que ça soit pas justement sacrilège. Je vais pas lui citer une hostie qui reste. Alors que, eh bien, au moment où j'ai donné l'hostie, 5 secondes plus tard, je vois le rythme cardiaque, 90, 80, 70, 50, 30, 10, 0. Oui. Il est mort sous mes yeux, mais notre Seigneur a attendu. Oui. Ça, c'est. Et vous voyez, cette communion à cet homme, ça m'a impressionné, vous voyez, de me dire que notre Seigneur a attendu ce moment-là. Donc, ça devait être une belle âme, ou je sais pas. En tout cas, le bon Dieu a voulu qu'il soit communié pour mourir. Alors que vous avez des braves dames de 85 ans, qui se cassent le col du fémur dans leur cuisine, et ils disent « Seigneur Jésus, j'arrive, je meurs », qui font un acte de contrition et qui meurent dans leur cuisine alors qu'elles allaient à la messe tous les jours. Mais justement, elles allaient à la messe tous les jours. Il n'était pas absolument nécessaire qu'elles aient l'onction et le viatique. Et leur mort dramatique peut être aussi un couronnement de leur amour en offrant cette mort dramatique. Vous voyez, rien n'atteint, voyez-vous, celui qui voit les événements de la vie sous l'angle de l'amour de Dieu. Même les événements les plus dramatiques peuvent être compris, et il faut l'expliquer parfois avec beaucoup, beaucoup de délicatesse, mais sous l'angle de l'amour de Dieu, tous les drames sont possibles. Vous voyez, comme cette Chinoise qui est morte le dernier jour, vous dites, mais pourtant, vous voyez, cette histoire est finalement facile. C'est que Dieu voulait honorer cette femme qui communiait chaque jour pour la prendre au ciel et en même temps faire cesser le sacrilège et honorer, enfin, c'est extraordinaire en soi. Mais humainement, rationnellement, quelqu'un pourrait dire « Ah, voilà votre Dieu, il aurait pu la laisser sauve. » Mais c'est absurde. La vie corporelle n'est pas le tout pour nous.
Mais c'est ce qu'a fait la bête noire, hein, quand il y a eu la Sainte Rita.